Bonjour et bienvenue au premier épisode de l'École du jeu. Donc, mon nom est Sylvain et je suis avec mon co-animateur Kevin.
Allô.
Donc, de quoi on va parler aujourd'hui dans ce premier épisode officiel? Bon, il y a eu un épisode, admettons, un test qui a été fait. Si vous pouvez le trouver, mais cherchez-le pas trop. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a un paquet de choses qu'on veut vous jaser.
Ouais, effectivement. Donc, on va vous parler genre de ce qu'on a joué, des nouvelles, de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a reçu. Puis on va mettre un peu d'emphase sur un jeu en particulier aussi.
Oui, effectivement, on a un jeu que ça me démange d'en parler, mais on va y arriver un petit peu plus tard. Donc, ben, on va y aller immédiatement avec les expériences de jeu. Donc, toi, Kevin, à quoi t'as joué dernièrement?
Ben, moi, en fin de semaine, j'ai été aux 12 heures ludiques à Joliette. C'était super le fun. Puis j'ai eu l'occasion de jouer à The Reckoners. C'est un jeu qui était sur Kickstarter, que j'ai backé. C'est basé sur les livres de Brandon Sanderson, du nom de The Reckoners. Puis, dans le fond, l'histoire, le grosso modo, c'est qu'il y a un cataclysme qui arrive, puis il y a des gens, le lendemain, qui se réveillent avec des super pouvoirs. La petite twist, c'est qu'il n'y a aucun de ces gens-là qui s'en sert pour le bien, donc ça devient tous des super vilains. Donc on devient... puis c'est sur la Terre, donc la Terre devient un peu contrôlée par les super vilains. L'histoire se passe 10 ans plus tard. Le grand méchant de l'histoire, c'est Steelheart. Il a pris contrôle de Chicago, qui s'appelle maintenant New Cago. Et les Reckoners, c'est une équipe d'humains qui se renseigne, dans le fond, qui essaie de trouver la faiblesse des super-vilains, qui va dans le fond, qui annule leur pouvoir pour les assassiner. C'est parce que c'est des méchants.
On a pas besoin de méchants. C'est des méchants, écoutez, c'est ça.
Donc, c'est ça. Le jeu, c'est... comment ils ont fait ça? C'est un jeu coopératif. On va tout le monde rouler ses dés en même temps, puis essayer de survivre et d'assassiner Steelheart en recherchant en premier sa faiblesse, puis ensuite, juste en y enlevant de la vie. Comment ça se passe sur le plateau? C'est qu'il va y avoir... La ville va être séparée en quartiers, puis chaque quartier va être contrôlé par un genre de mini-boss. Il va falloir s'occuper de ces mini-boss-là, parce qu'à chaque tour, eux autres, ils prennent du power. Puis en prenant de plus en plus de pouvoir, Steelheart prend de plus en plus de pouvoir et devient de plus en plus fort. Donc ça fait un effet de boule de neige que t'essaies de... que ça arrive pas. C'est bien le fun parce qu'en plus, le jeu n'a pas vraiment de downtime. Tout le monde roule ses dés en même temps, tout le monde... T'es un peu à la Yadi, là, t'as le droit à trois lancers. Puis ensuite, t'es pris avec ces résultats-là. À chaque lancer, il faut absolument que tu prennes au moins un dé. Il y a un dé que tu vas garder. Puis les autres, tu peux les relancer. Là. Au troisième lancer, tu restes pogné avec tout ce que tu avais. Et ces dés-là, ils ont chaque face a un symbole. Puis chaque symbole te permet de faire une action spéciale. Fait que tu essaies d'avoir ce que tu veux, ce que tu as besoin. Puis ensuite, tout le monde se consulte. Et tout le monde, on peut tous utiliser nos dés dans l'ordre qu'on veut. Fait que le premier joueur peut en utiliser un, l'autre en utilise trois, l'autre utilise toutes ses six. Puis ça revient au premier joueur ou... à l'autre d'avant, là. Ça n'a pas d'importance. Des fois, ça t'aide à juste être plus efficace avec tes dés. Puis, donc, c'est ça. C'est une fois que tout le monde a alloué ses dés, on a peut-être ramassé de l'argent, fait qu'on va pouvoir s'acheter de l'équipement pour nous autres être meilleurs et plus efficaces, puis essayer de faire une petite machine qui va être plus efficace pour les prochains tours. Dans la ville, ton bonhomme, il doit se déplacer. À des fois, il va être pris. Genre, les pouvoirs... genre, Steelheart, il peut faire apparaître des genres de policiers, mais pas des bons policiers. Ils vont t'empêcher de faire des affaires. Il peut faire apparaître des barricades qui vont t'empêcher de bouger dans la ville. Parce qu'à chaque fois que tu vas attaquer un méchant, faut que tu sois dans son quartier. Fait que Steelheart, lui, il fait le tour de la carte, puis il est jamais arrêté par rien parce qu'il vole. Quand t'essayes de le suivre, des fois il t'a mis des barricades, puis là tu peux pas le suivre, faut que tu dépenses des dés pour pouvoir enlever les barricades. C'est comme une grosse gestion qui est bien bien le fun. Puis au final, tu fais ça jusqu'à temps que Steelheart soit mort, ou ben non, que toute la population de New Cago n'existe plus.
Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. C'est pas mal les deux façons de mourir. C'est pas mal la seule façon de mourir aussi.
Ok. Ça a l'air d'être un bon jeu. En tout cas, moi, je l'avais vu sur Kickstarter. Je l'avais pas backé. Mais sérieusement, ça m'avait. Il m'avait vraiment intrigué, là.
Ben écoute, moi, les premiers coups, je pensais pas que ça allait être si bon, tu sais. je regardais juste le truc avec les dés, puis je pensais qu'on allait être comme pris avec nos résultats, ou que... Je sais pas, peut-être que je...
J'ai eu un feeling de King of Tokyo au début, moi.
Ouais, un peu. Ben moi aussi, je trouvais vraiment que ça avait l'air comme vraiment très léger et tout. Puis, sincèrement, après avoir joué, il y a vraiment plein de possibilités. Puis, je sais pas, il donne un sentiment, tu sais, que c'est le fun. T'as l'impression, à chaque ronde, il va toujours avoir des vilains dans les quartiers. Fait que même quand tu n'élimines un, au prochain round, il y en a un nouveau qui est là. Il y en a un nouveau qui est apparu. Fait que, tu sais, faut tout le temps que t'essayes de contrôler les vilains qui sont dans la ville. En plus de Steeler, que t'essayes d'y baisser la vie. Parce que si tu fais juste... Si tu fais juste t'occuper des vilains dans la ville, ben Steeler va continuer de tuer du monde à chaque ronde. Fait que tu vas finir par perdre pareil. Fait que c'est comme... T'essayes de prioriser les affaires.
Une espèce de petite course là aussi, de pas laisser les choses arriver hors de contrôle. Là.
Ouais, puis ça... Quand ça prend une débarque vraiment rapidement. Là. Pour vrai... la première game qu'on a joué, on était 6. Ce qui est impressionnant, c'est que ça a duré genre juste une heure et quart.
OK.
À 6. Le premier round, on a perdu 20 populations sur 40. Après ça, on a remarqué qu'il fallait vraiment faire plus attention aux vilains dans la ville. Sinon, ça prenait des proportions un petit peu intenses. Là. Puis, j'ai rejoué à 3, puis ça a été à peu près ça, là, une heure et quart.
OK. Ah, mais c'est quand même bien quand même, comme temps de jeu. Là. Oh, si les joueurs offrent des bonnes décisions, des choses comme ça. Là.
Ouais. Tu peux te faire des beaux petits combos là, avec l'équipement. Là. Il y a des trucs qui sont bien le fun.
Oh, faut pas me dire ces affaires-là de combo, là.
Mais en plus, dans le jeu, il y a un des symboles, ça te donne un token qui va être un wild pour le prochain tour. Donc, une...
okay.
Puis ça, tu peux les accumuler. Fait que tu peux te ramasser que le prochain tour, tu te t'as genre 7 tokens de plus qui sont des frimes. Fait que tout ça, ça te permet de vraiment tout faire ce que tu veux pratiquement. Là.
Le moyen de se préparer un bon tour.
Ouais. Donc,
non, les combos, c'est tout le temps le fun à faire des combos.
Ouais.
Parlant de combine, moi, de mon côté, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Jump Drive. Est-ce que tu connais ce jeu-là?
Je sais c'est quoi.
OK. Jump Drive est issu, un jeu de Thomas, Tom Lehman, qui est issu de Race for the Galaxy. Race est un jeu de cartes que j'affectionne particulièrement. Il y a eu aussi une autre version qui a été faite, Roll for the Galaxy, que personnellement, j'ai trouvé plus accessible mais moins intéressante que Race. Le problème avec Race for the Galaxy, c'est que à la base, c'est un jeu qui est vraiment, mais vraiment déplaisant à enseigner. Moi-même, qui adore montrer les jeux, j'aime ça expliquer la panoplie de jeux. Race for the Galaxy, c'est pas mon préféré, disons, à enseigner. Jump Drive, ça se trouve être quoi? C'est un condensé de Race for the Galaxy. Donc, c'est comme si je jouais une version, un filler de Race for the Galaxy qui va durer à peu près 20 minutes. Parce que, peu importe le nombre de joueurs, les parties durent en moyenne 6 à 7 tours. Ce qu'on va faire, c'est que tous les joueurs vont jouer simultanément. On va choisir de placer un monde ou un développement qui vont faire en sorte de nous donner des bonus. Le problème de Race d'habitude, c'est l'iconographie qui est vraiment pas complexe, parce qu'un coup tu la comprends, il n'y a pas trop de problème avec ça, mais l'iconographie est vraiment, vraiment simplifiée pour faire en sorte d'avoir un petit jeu bien simple. Donc, on va jouer nos cartes comme ça, tous en même temps. Mais à la fin du tour, ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes qu'on a vont produire des points de victoire. Bon, il y en a certains qui vont en produire plus, d'autres qui vont en produire si tu possèdes certains mondes de certaines cartes de telle ou telle couleur ou avec des conditions comme ça. Mais à la base, à la fin de chaque tour, tu vas faire des points. Puis ensuite, tu vas piger des cartes. Donc, comme Race for the Galaxy, la monnaie de jeu-là, ça se trouve être des cartes. Donc, pour jouer des cartes de développement, ça te coûte des cartes que tu mets dans une défausse. Pour jouer des planètes, ça te coûte des cartes que tu mets dans une défausse. Puis ultimement, ça devient la monnaie d'échange. Donc, chacune des cartes à la fin des tours va générer des points de victoire, puis va générer également des cartes qu'on va piger pour pouvoir payer pour jouer des plus grosses cartes, faire plus de points de victoire. Ce qui est drôle, le jeu-là, c'est que ça dure en moyenne 6 tours. Donc, on a 6 tours pour essayer de se compresser un moteur, un engine qui va fonctionner parfaitement. Parce que on n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas le temps de prendre notre temps. Jump Drive, ça se trouve être vraiment un condensé. C'est un engine builder sur le speed. Là. C'est vraiment là, c'est vraiment des parties rapides. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est justement, c'est accessible, c'est pas trop long. Ça me donne le goût de jouer à Race for the Galaxy. Toi, Kevin, as-tu déjà joué à Race?
En fait, j'ai joué à Race une fois sur mon iPad.
OK. Et oui, ouais, il y a une version mobile, d'ailleurs, qui est vraiment géniale.
Ouais, j'y ai pas joué en vrai.
C'est la seule façon que j'ai de pouvoir jouer avec des êtres humains, parce que ça me tente pas de le montrer à personne, fait que...
Je sais juste que quand j'avais joué sur iPad, ça m'avait rappelé un peu San Juan.
Mm-hmm. Ouais, ben en fait, c'est ça.
La mécanique de cartes, là, ouais.
L'historique, en gros, c'est que il y a Andreas Seyfarth, je crois, qui a fait Puerto Rico avec justement Thomas Lehman. Lehman, il a participé un peu. À un moment donné, ils ont décidé vouloir faire un projet de jeu de cartes. Le premier designer a dit « Ah, on va garder ça dans le thème de Porto Rico. » Puis Lehman, lui, voulait faire de quoi de plus funky. Fait qu'il est tombé vers l'espace, ils sont comme séparés. Fait qu'ultimement, les deux jeux, c'est relativement le même concept de base qu'en arrière.
Ah.
Fait que San Juan puis Race for the Galaxy, c'est juste que ça a été comme la version de un et la version de l'autre, tu sais, avec les actions qu'on va sélectionner. Fait que ouais. Ça a été comme... Ça s'est dérivé comme ça. Fait que ça, c'est le petit historique de ça. Mais en tout cas, comme je disais, Race, c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu, puis c'est vraiment le fun. As-tu déjà joué à Roll?
J'ai déjà joué une fois à Roll.
OK, Roll. Ouais. Comme je disais, il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé parce qu'il était plus accessible, mais moi, personnellement, là, c'était pas l'original. Mais en tout cas, pour revenir à Jump Drive, ça fait en sorte que ça me donne un bon petit compressé de ça. Puis, ben, j'ai juste envie maintenant de jouer. Je pense que je vais aller sortir sur mon téléphone puis que je vais m'enligner quelques parties.
En fait, juste pour le temps, ça a l'air super intéressant, là.
Oui, c'est...
Un genre de petit filler, quasiment.
Effectivement. Surtout que tous les joueurs jouent de manière simultanée. Fait que, comme j'ai pas une partie qui a dépassé la date de 20 minutes.
Wow.
Parlant de jeu qui doit durer plus que 20 minutes, je pense que toi, t'en as joué un qui est un peu plus long.
Ouais, en fait, je pense qu'on aurait le temps de jouer une partie de Jump Drive entre les tours. Avant que ça revienne à ton tour. J'ai eu l'occasion de jouer à Monumental, en prototype, là.
Ouh, une primeur.
Ouais, gracieux, c'est de Etu Game. Donc, Monumental. Je trouvais que le concept de deck building puis d'activation dans une grille, ça allait être cool. Fait que j'étais vraiment intéressé. Puis en plus, c'est sûrement le type de civilisation, comment ils l'ont fait, puis l'artwork et tout. Tout est vraiment super écœurant sur le jeu. J'avais beaucoup d'attentes. Le jeu n'a pas forcément atteint ces attentes-là. Mais, OK. Dans le fond, Monumental, grosso modo, c'est que tu vas avoir une ville qui est une grille de cartes de 3x3. Chaque tour, tu vas activer une ligne puis une colonne. Puis tu vas activer toutes ces cartes-là. À la fin du tour, tu vas jeter ces cartes-là, puis tu vas en avoir des nouvelles. Et pendant ton tour, tu as l'occasion d'acheter des nouvelles cartes. Fait que c'est un deck building. C'est juste que ta main, c'est une grille, puis tu n'actives pas toutes ces cartes-là. Dans Monumental, il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire. C'est un mix de deck building avec le 4X, donc tu vas pouvoir attaquer, te déplacer, explorer, acheter des nouvelles technologies pour upgrader ta ville, puis l'autre c'est produire des ressources, je pense. Anyway, on le fait pas tant que ça. Donc, comme je dis, le gros problème du jeu, c'est le temps entre les tours, parce que à ton tour, c'est excellent. Pour vrai, t'actives, t'as plein de combos à faire, tu vas te déplacer sur la map, tu vas réussir à avoir d'autres ressources qui vont te faire faire d'autres actions, puis là ça va donner des choix, puis là peut-être que tu peux acheter cette carte-là, qui va te faire piger cette carte-là, tu vas l'activer encore, ça va peut-être faire une autre affaire. Il y a comme vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, c'est excellent. Le seul problème, c'est que quand c'est pas ton tour, t'as vraiment rien à faire. Donc ça va aller, ton tour a peut-être duré 10 ou, il peut durer genre jusqu'à 10 minutes, puis c'est super le fun pendant ton 10 minutes. Mais après ça, peut-être que les tours des autres vont durer 10 minutes aussi. Fait que si tu joues à 4, t'es pratiquement 30 minutes là, à attendre. Pis c'est ça. Ça m'a un petit peu déçu, ça m'a enlevé un petit peu de mon fun, parce que quand... Je sais pas. J'aurais aimé ça, je pense, avoir quelque chose à faire à mon tour, là.
Ouais, mais c'est ça, t'aurais eu le temps de jouer une partie de Jump Drive.
Ouais. Ouais, puis c'est vraiment dommage, parce que sincèrement, la mécanique, la grille, puis le cross-tapping qu'ils appellent, c'est vraiment super le fun. Tu fais comme plein de combos avec ça. Les factions sont différentes, ils ont des cartes de power différentes. T'as les technologies, c'est le fun aussi pour le côté civ, là. Fait que t'as comme plusieurs âges, puis tu vois les technologies avancer. Tu commences au début, pis c'est comme, tu peux acheter des forges, puis à la fin, tu peux acheter le monument, c'est le Polyhedron Collider.
L'accélérateur de particules.
Ouais, exactement.
Oh, oui, l'accélérateur de particules.
Ah, mais c'est cool. C'est vraiment cool, sauf que, ouais.
Mais ça, moi, c'est un côté qui m'avait impressionné au premier coup d'œil, parce que j'ai pas backé le projet Kickstarter, mais c'est ce qui m'avait intrigué, le côté justement là, d'évolution par rapport à ça, là, le côté justement civilisation, comme pas nécessairement un tech tree, mais juste de faire un avancement. Là.
Ouais. Ah, ouais, pour vrai, ce côté-là, c'est super réussi. Là. C'est vraiment bon. Mais. Juste à cause du temps d'attente, j'ai pas forcément le goût d'y rejouer.
Donc on peut dire que c'est un échec monumental, Bad Pun.
Ouais, pour moi, ouais. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y jouer solo. À côté solo, t'as pas de downtime. Mais,
effectivement.
Mais moi, personnellement, jouer solo, c'est pas pour ça que je l'achèterais, là, donc...
Ça va être un autre sujet de discussion à un moment donné qu'on va pouvoir faire. Ouais. Parce que je sais que je pense que je joue un petit peu plus solo. Quoique récemment, je joue un peu moins qu'avant. Là. Donc, ben, Monumental, il était sur Kickstarter. On va voir ce que ça va donner.
Ouais, parce qu'il est, ouais. Il est exclusif au Kickstarter.
Donc, c'était Monumental. Pour moi, j'ai joué un autre jeu. En fait, connais-tu Pixel Tactics, Kevin?
Je connais.
As-tu déjà joué à Pixel Tactics?
J'ai pas joué.
Comme beaucoup de personnes, ils ont possédé Pixel Tactics, ils l'ont revendu. J'ai fait exactement la même chose avec une vieille copie de Pixel Tactics. Ouais. Ensuite, j'en avais racheté une autre. J'avais joué une partie et j'avais fini par la vendre. Bon, ok, ça avait pas donné. Mais Pixel Tactics est un concept que j'ai pas trouvé mauvais. C'est un jeu tactique de cartes. Mais l'année passée, ou il y a deux ans, il y a un projet Kickstarter qui est sorti, puis il est arrivé après ça en magasin. C'était la version Mega Man de Pixel Tactics. Je sais pas pour toi, Kevin, mais moi, Mega Man, là, c'est un. Je dirais que j'ai une grosse place dans ma vie, dans ma jeunesse.
Pour vrai, moi, j'ai pas joué à Mega Man vraiment.
Non, ok.
Non.
Moi, je me rappelle les ben vieilles années au Nintendo, ok, ça trahit mon âge aussi, mais quand on jouait Mega Man 2, probablement un des meilleurs Mega Man que j'ai joué de ma vie. Ah. Ben, fait que moi, j'ai comme un attachement au IP, disons, à la propriété intellectuelle. Mega Man, ça vient me chercher. Fait que quand j'ai vu ça, Pixel Tactics, intéressant, bon, concept que j'avais déjà vu. Après ça, Mega Man. Hey, j'ai un de mes amis qui est un bon gamer, mais c'est pas le genre de gars à découvrir des nouveaux jeux. Je me suis dit, c'est exactement le jeu parfait pour que je lui montre. Vite, vite, c'est quoi? Pixel Tactics et Mega Man Pixel Tactics, qui se trouve être une nouvelle version là, avec des personnages. On va avoir... c'est un jeu de duel, donc deux personnes qui vont s'affronter avec un deck de cartes. Ça reprend un petit peu un côté de jeu tactique. Donc, on imagine des jeux comme Final Fantasy Tactics, des choses comme ça. Mais on va placer des personnages sur une grille. Donc, on a notre leader qui va être au milieu. Et tout autour, on va placer différents personnages. Le jeu mise beaucoup sur... chaque joueur a son deck de 26 cartes. Les deux ont exactement le même deck. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que en début de partie, on va choisir un boss. Et là, on va retourner la carte de bord. Les cartes sont multi-usages et pas à peu près. Tout dépendant de l'emplacement où la carte va être, avoir un effet différent. Donc, exemple, ma carte, je vais prendre mettons Mega Man, si je m'en sers comme leader, il va être au milieu, il va avoir une certaine habilité, mais sinon, si je le joue pendant la partie, si je le place dans la ligne d'en avant, il va avoir une habilité souvent plus offensive, plus proche de ligne de mêlée. Je peux le mettre au flanc, donc à gauche ou à droite du leader, pour qu'il y ait une autre habilité. Je peux le mettre en arrière pour qu'il y ait une habilité probablement de support ou pouvoir d'attaque à distance, ou je peux le défausser pour faire un effet. Ça, c'est 5 choses différentes que chacune des cartes peut faire. De la variété, il y en a, pourtant c'est juste 26 cartes, puis on a les mêmes cartes d'un bord puis de l'autre. Le jeu va se dérouler, le but c'est de descendre le leader à 0 point de vie, on va jouer des personnages qui vont avoir des attaques et des choses comme ça. Le jeu est bien pensé, le jeu dure à peu près une heure, ce qui est peut-être un peu long pour ce genre de jeu-là, mais c'est très engageant. Le fun de Mega Man, c'est que chaque personnage est tellement thématique. Donc, premièrement, c'est les personnages de Mega Man 1 à 3. Donc, les vieux de la vieille comme moi, ça leur donne plein de souvenirs. Mais ils ont tous des habiletés vraiment, vraiment, là, qui fit avec les personnages. Top Man, qui est un personnage avec une toupie sur la tête. Lui, quand il est en arrière, il peut lancer sa toupie, il peut faire du dommage à distance. Il y en a d'autres, Cutman, qui fait du dommage à la créature, aux personnes en arrière. Puis, il revient comme un petit boomerang. Mais écoute... Le nombre de trucs qu'on a vu, puis je pense que c'est l'effet nostalgie, là, mais chaque petite carte est vraiment, vraiment thématique. Puis ça m'a même donné le goût de rejouer à Pixel Tactics.
Ah, ben ouais, Pixel Tactics. Moi, j'avais entendu qu'il allait avoir une application qui allait sortir sur mobile.
Ça, ce serait absolument génial.
Puis si je me souviens bien, j'ai vu des vidéos de l'application en action.
OK.
Et que ça a l'air vraiment excellent, là.
Ah, c'est bon, parce que sérieusement, moi, j'ai même, en plus d'avoir la version Mega Man, je me suis commandé sur un site en ligne, la Pixel Tactics 1, le premier, parce que okay. Ça m'a donné le goût de rejouer, puis à la limite, on peut mélanger ou des choses comme ça, là, ouais. Mais le côté un peu le job de Final Fantasy, des personnages, des Warlocks, des White Mages, des affaires de même, je trouvais que ça me donnait juste le goût de rejouer.
C'était à quelle version t'as joué de Mega Man?
J'ai joué à Mega Man la première, celui de la boîte de Mega Man 1 à 3. Il y a aussi la version Protoman qui se trouve être Mega Man de 4 à 6.
Okay,
puis il y a la Bass Orange Box, que ça c'est un paquet de personnages en surplus qui a des extras qu'il y avait pendant la campagne Kickstarter.
Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. pour vrai, la variété, c'est écœurant. Surtout qu'en plus, que quand tu places ton personnage à différentes positions, il fait différents effets. Là. Mm. Puis je pense que chaque personnage peut être un leader aussi.
Oui, chaque personnage peut être un leader. Ils ont chacun des pouvoirs. Fait que les possibilités sont vraiment incroyables. Puis comme je dis, juste d'avoir que des personnages comme Airman qui poussent le monde avec son air ou des. Il y a plein de choses, c'est tellement thématique, c'est délicieux.
S'ils peuvent finir par sortir l'application, là, je vais sûrement...
Oui, non, ça, j'avoue que je vais suivre. Je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis la compagnie aussi, c'est Level 99 qui fait ça. Beaucoup de choses qu'ils font, c'est... ils ont fait Millennium Blade, que j'ai eu l'occasion de jouer aussi avec toi, je pense.
Ouais.
C'était vraiment absolument génial. Ouais.
Battlecon, excellent jeu de combat qui fait comme... T'as vraiment l'impression de jouer un jeu de combat en 2D.
Bon, ben ça y est, tu m'as donné le goût d'aller faire de la pression pour essayer de voir où c'est qu'ils s'en sont rendus avec le Pixel Tactique.
Bah, moi j'ai joué un jeu, un Roll and Write, un nouveau, par Cool Mini or Not. C'est Railroad Inc. Je pense que c'est devenu mon Roll and Write préféré, juste parce qu'on dessine vraiment beaucoup dedans. C'est contrairement à d'autres que tu vas écrire des chiffres là, dans des carrés. Ici, ben tu vas dessiner des rails de chemin de fer ou des routes. J'aime vraiment ça, perdre mon temps puis faire que ça soit super beau. ce jeu-là, en plus, c'est pas super long, ça se passe en 7 rondes. On va rouler 4 dés. Chaque dé, il y a 3 dés pareils, puis un différent. Chaque dé, chaque face, il va avoir un style de rail ou de route différent. Donc, il peut avoir des tournants, un T, une ligne droite, ou des chemins... Il y a des faces aussi qui vont mélanger route et rail. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un carré, on a une grille de 49 cases, c'est dans le fond 7 par 7. Il va avoir en alternance route et rail à deux cases là, de séparer. Ton but, c'est de raccorder le plus de chemins ensemble. Dans le fond, tu vas faire un chemin, puis tu essaies de séparer pour qu'il aille vers les sorties le plus possible. Puis tu veux aussi réduire au maximum le nombre de tes chemins qui ne sont pas complets. Donc, si un chemin est dans le vide, à la fin de la partie, ça va te valoir des points négatifs. Et tu veux pas vraiment ça. Tu fais aussi des points pour ta plus longue route. Et tu fais aussi des points pour ta plus longue rail. Puis, en plus de ça, pour te forcer à dessiner un peu partout, ils te donnent t'as des points supplémentaires si t'es écrit, si tu dessines des rails ou des routes dans le milieu. Si tu utilises les 9 cases du milieu. Donc, à chaque tour, tu roules 4 dés. Tout le monde dessine ses rails de ses 4 dés. Et ensuite, on passe au prochain round. Puis on fait ça 7 fois. Ensuite, c'est fini. On regarde, on calcule les points. On regarde c'est qui a fait le plus de points.
C'est qui a fait le plus beau dessin.
Mais ça donne pas de points supplémentaires.
Ah non, okay.
Non, t'es pas obligé de te forcer.
Parce que moi, je suis vraiment mauvais là-dedans.
Il y a aussi des intersections spéciales que t'as le droit d'utiliser une fois par round. Il y en a juste 6. T'as le droit de les utiliser, les mettre là, pendant le round. Puis... c'est des intersections à 4, puis t'as presque toutes les combinaisons possibles, mais tu vas juste pouvoir les utiliser une fois. Fait que tu peux pas... À des fois, tu vas en utiliser un, puis au final, t'aurais pas dû l'utiliser là, puis plus tard, tu vas regretter de l'avoir mis là. Mais tu pouvais pas anyway prévoir, puis à des fois, il te manque... Quand on roule les dés, c'est drôle, parce que souvent, t'as besoin d'un chemin, puis il est pas roulé avant la fin, là. Mais c'est vraiment excellent. J'ai vraiment adoré. Je suis rendu à comme 5 parties de jouer. Il va venir en 2 versions, une rouge puis une bleue.
Ouais, j'ai vu ça.
Ouais, la différence dans le fond, c'est que chaque version vient avec 2 mini extensions différentes. Le rouge, il y en a un.
Les volcans, puis ouais, les météores.
Exactement. Les volcans, dans le fond, tu vas avoir un volcan sur ta map, puis tu vas faire des points pour chaque volcan qui est entouré d'un lac de lave fermé. Puis les météores, ils vont juste venir tout péter tes routes, puis faire des cases que tu peux pas dessiner dessus.
Oh.
La version bleue, je sais qu'il y a des lacs.
Oui, des lacs. Est-ce que c'est des ponts?
Ça
je suis pas sûr. Je sais qu'il y a des lacs. Ça, je le sais, là.
Ouais. Là,
mais est-ce que je pense qu'elle est plus soft un peu. Là. C'est, la version rouge est un peu plus agressive avec les météores puis les bris de route. Puis le bleu, c'est un peu plus convivial, un peu plus amical. On va s'aider, là.
Ouais, effectivement. Ah, je pense que c'est peut-être une rivière. Il y en a un, c'est des lacs, puis l'autre, c'est une rivière, je pense.
Ah, ouais, ça fait du sens.
Fait que, mais ouais, ça, je vais probablement acheter les deux versions qu'il va sortir. Il devrait sortir bientôt aussi.
Oui, il devrait sortir bientôt. Moi aussi, je le regardais aller. Là. Je pense que c'est un petit roll and ride que je vais devoir me procurer.
Ouais. Parlant de trucs aussi qui devraient sortir bientôt, j'ai pu acheter une copie de Wildlands. Je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir.
Il est en train de sortir. Le monde commence à le recevoir. Là.
Ok. Moi, je l'avais commandé de. Une Grande-Bretagne directement. Ouais, directement du UK. Je l'ai eu comme un mois avant, puis il était moins cher. C'était bizarre.
Ouais, il a remonté le prix depuis que l'annonce a été faite.
Ouais. Donc, Wildlands, c'est un jeu de Martin Wallace. C'est un petit jeu de skirmish de 2 à 4 joueurs. Quand même assez rapide, ça aussi. C'est super impressionnant que ce soit par Martin Wallace. Je crois que c'était son premier.
Le pedigree de l'auteur est assez gros. Martin Wallace, il a fait des jeux que tout le monde connaît, comme entre autres Brass. Il y a plein d'autres choses aussi qu'il a fait. Il a fait, tout récemment, il sort tout le temps des jeux. Il a fait aussi la série Age of Steam,
ouais.
À l'origine, oui. Il a d'ailleurs été sur Railroad Tycoon, qui est devenu Railways of the World. Il a fait Steam aussi. Il a fait Steam, la série de ça. Récemment aussi, il est encore très, très actuel avec Australia, puis un paquet de choses. C'est vraiment un auteur avec un paquet de cordes à son arc. Puis Wildlands est vraiment différent.
Ouais, super différent. Si on pense à ça, sa mécanique de cartes, je pense qu'on peut la retrouver. Ça nous fait penser un petit peu à Wallace. Là. Il aime ça faire des cartes avec plein d'icônes que tu peux juste utiliser un icône dessus.
Les choix déchirants.
Ouais, exactement. Mais dans Wildlands, c'est ça aussi un peu. Il y a 4 factions. Il y en a aussi en extension, mais dans la boîte de base, il y a 4 factions. Chacune avec son deck. Puis son deck de cartes a une répartition d'icônes puis de nombre de cartes par personnage différentes de tout le monde. Fait que dans le fond, c'est des decks asymétriques pour les factions. Ce que tu peux faire, à ton tour, tu peux jouer autant de cartes que tu veux. C'est juste que à la fin, tu vas juste en repiger 3. Okay. T'as une main maximum de 7. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes cartes? Tu peux bouger, tu peux attaquer. Si tu échanges 3 cartes du même personnage avec l'icône du même personnage, tu vas pouvoir ramasser une gemme sur le plateau. Juste un icône, ça permet de bouger. Pour attaquer, il faut que ça soit le personnage que tu veux utiliser. Il faut que tu aies une carte avec son icône et le symbole d'attaque pour pouvoir attaquer. C'est vraiment du gros hand management. Là. Tu dois absolument faire attention à ce que tu as dans ta main. Tu dois essayer d'en utiliser assez pour passer à travers ton paquet de cartes puis avoir les cartes que tu as besoin. Moi, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Il y a plein de bouts où tu as plein de choix déchirants à faire. Les cartes, tu peux les garder aussi. Parce que quand tu vas te faire attaquer sur ton tour, tu peux défausser des cartes qui ont des boucliers ou des symboles spéciaux, puis juste bloquer l'attaque. Donc, ça peut être comme super pratique. Tes points, tu fais des points pour... Tu fais un point par gemme que tu vas aller ramasser de ta couleur. Au fond, chaque personne commence avec, je pense, c'est 4 ou 5 gemmes. Tu vas faire un point par gemme que tu as ramassé. Puis c'est le premier à... Oh non, j'ai oublié. C'est le premier à 4 ou 5 points. Tu fais aussi un point si tu tues le personnage d'une autre personne. Tu vas juste prendre son bonhomme, puis tu vas le mettre avec les gemmes que tu as ramassées, puis ça compte pour un point. Cette personne-là aura plus ce personnage-là, il va pouvoir utiliser ces cartes-là pour se déplacer. Comme. Mais j'ai bien aimé ça. Mais en fait, j'aime pas mal ça, les jeux avec des choix déchirants. Là. Ça...
Ouais, mais c'est intéressant d'avoir des choix. Un jeu qui te met sur le pilote automatique puis qui te fait rouler un peu, c'est pas souvent intéressant parce que moi aussi j'aime ça avoir un jeu qui va me donner des choix tangibles puis des options pour essayer de pouvoir. Non, j'avoue que ça rajoute une bonne facette au jeu.
Ouais. Donc ça, moi personnellement, un commentaire positif pour Wildlands là, j'ai adoré.
Ouais, il faut que je jette un coup d'œil. J'ai passé proche de l'acheter quand j'ai vu la vente, puis je me suis dit qu'il fallait que je me raisonne un petit peu.
Ah oui, c'est ça, puis c'est publié par Osprey Games.
Osprey Games, d'ailleurs, une compagnie que j'apprécie particulièrement. Il y a une bonne qualité de jeu. Je trouve qu'ils font des choses bien intéressantes.
Pas mal. Ça nous amène à notre gros jeu.
Oui, le gros jeu qu'on voulait parler. On va jaser un peu. moi, je suis très, très... Je pense que mon hype meter, habituellement, bon, va être assez élevé. Mais là, dans ce cas-là, ça fait plusieurs... Ben, déjà, quelques temps que le jeu, j'y pense et qu'il me travaille. La sortie est imminente. Le jeu arrive. Et j'ai même fait une vidéo tout récemment là-dessus. Et je parle de Keyforge. Donc, si jamais vous savez pas c'est quoi Keyforge, les grandes lignes, bon, que je pourrais vous dire aussi d'aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je trouvais ça très intéressant d'en parler. Mais, en gros, c'est un jeu de cartes de duel fait par Richard Garfield. Richard Garfield qui a, entre autres, fait une panoplie de jeux, mais Magic the Gathering étant un de ceux-là. Moi, étant un ancien joueur de Magic très, très intensif, je me suis dit que ce serait vraiment, vraiment génial. Toi, Kevin, quand t'as entendu parler de Keyforge, est-ce que t'as eu le même genre de hype que moi que j'ai eu dans ma tête?
Oui. Dans le fond, moi, j'aime bien ça. Je trippe sur tous ces jeux-là qu'il faut faire du deck building, mais j'ai pas le temps pour faire du deck building.
En fait, on dit deck construction. Oh, du deck... À ne pas confondre avec le mécanisme de deck building utilisé dans des jeux comme Dominion.
C'est vrai. Donc... Moi, personnellement, je trippe sur ce type de jeu-là. Ouais. Sauf que je prends jamais le temps de construire un deck. Ou j'ai pas le temps de construire un deck. Fait que finalement, je m'achète souvent des cartes, puis je jouerai pas.
Le seul plaisir que j'ai eu dans les dernières années Magic, parce que comme je dis, pendant un bout de temps, je jouais très intensif, à un moment donné, j'ai arrêté, puis ça a été de jouer des decks qui étaient des préconstruits, des choses comme ça. Je trouvais que, bon, écoute, comme tu dis, autant que le deck construction, c'est la chose qui me faisait le plus tripper dans ces jeux-là, j'avais plus l'énergie puis la motivation de vouloir rester à vif avec ça.
Ouais, et c'est pour ça que Keyforge, ça m'a super intéressé. Les decks uniques, t'achètes un deck, puis tu peux partir à jouer direct là, en l'ouvrant. Pour être sincèrement, pour moi, c'était un concept écœurant. Là. C'était parfait.
Non, le concept est vraiment, vraiment génial parce que pour moins d'une quinzaine de dollars, là, on parle peut-être, je pense, de 12-13 piastres canadiens, on va pouvoir se procurer un deck. Le deck va avoir 3 factions sur 7 et va être totalement unique. Donc, il y a un nom de deck unique. Certains loufoques, certains d'autres, non. Ça, c'est une autre chose qu'on va pouvoir jaser. Mais de base, on a un deck qui est à nous. Puis, ce deck-là est créé avec une synergie. Ça fait en sorte que chacun des decks, oui, est différent, mais va utiliser une certaine thématique ou un certain concept de base.
Effectivement.
Fait que c'est ça. Fait que donc, Keyforge, en arrivant, justement, pour moi, je pense que c'est un peu la nouvelle version de Magic que j'attendais depuis longtemps. Parce que Magic, j'ai arrêté de jouer, j'avais plus l'intérêt puis l'énergie de vouloir construire des decks puis de rester à flot avec ça. Puis, même à l'origine, quand Keyforge, j'ai entendu parler de ce jeu-là, j'ai dit, OK, Richard Garfield, encore là, le pedigree est là du designer, mais... Je voulais trouver un jeu qui me donnait le même feeling que j'ai eu pendant que je jouais Magic, parce que le fun d'avoir des paquets, créer des choses, je voulais le retrouver à un moment donné dans un jeu. Puis ça, malgré tout, là, je suis tombé un peu plus dans les jeux de société après. Il n'y a pas un feeling qui est arrivé proche à ce type de jeu de cartes-là de Magic. Toi, Kevin, t'as-tu joué beaucoup à Magic?
Non. Ok. Non, vraiment pas. Okay. Je pense que j'ai joué... 3 ou 4 games dans ma vie.
Ok, bon, c'est ça. Je dois en avoir joué à peu près avec 3-4 000. Ça fait une grosse différence. Mais moi, j'avais justement le goût que Keyforge vienne de ça. Puis j'ai pu l'essayer dans divers événements ludiques, à gauche puis à droite, des places promotionnelles, puis des affaires de même. Et le type de jeu m'a vraiment, vraiment enchanté. Parce que, premièrement, Kevin, t'es rendu à combien de parties à peu près?
Ah, je dois être rendu à une quinzaine, je pense.
Ok, bon, une quinzaine de parties.
Ouais. Dans un événement qui donnait des previews un peu des decks là, qui se passait en août. Toi, je pense que tu avais pu l'essayer au Delirium.
Oui, j'ai pu l'essayer aussi au Delirium. Puis je l'avais essayé aussi à un événement d'une boutique locale pas trop loin de chez moi.
Ouais, pareil. Je viens d'essayer ça dans un pré-lunch qui appelle.
Mm-hmm.
En attendant la super release deck. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'acheter, m'acheter une boîte de decks puis juste les déballer.
Ben, moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que j'ai précommandé ma boîte de base, j'ai beaucoup, beaucoup de decks individuels aussi. Puis moi, ce que j'aime de jeu, ce que je vais aimer de jeu-là, c'est autant le fun d'ouvrir un booster. Quand on joue à Magic, ouvrir un booster, t'as tes nouvelles cartes, c'est toujours le fun. Les premières fois, c'était vraiment fantastique. À la fin, on faisait juste regarder la carte rare, on regardait c'était laquelle, puis le reste, ça servait absolument à rien. Mais, ouais, c'est le gros problème.
Je pense que ça va être le sentiment de découverte, hein.
Mais moi, pour Keyforge, je veux retrouver ce sentiment de découverte-là. Ouais. C'est pour ça que moi, pour ma part, les decks que j'ai, je vais même pas, je vais l'ouvrir, mais je regarderai même pas les cartes qui font partie de ce deck-là. Je vais voir les trois maisons qu'il va y avoir dessus, puis je veux juste le découvrir. Je vais le brasser mon deck, puis je vais le découvrir.
Ouais, je vais faire la même chose. C'était pas mal ça que je voulais, là, que je voulais dire. Je vais juste les ouvrir pour voir quelle faction qu'il y a dedans. Ouais. Fait que tu sais, après ça, tu vas juste pouvoir te dire, ah, je vais regarder ce deck-là, si les trois factions vont bien ensemble, puis si les cartes qui sont dedans fit bien ensemble.
Là. Parce que ça, c'est vraiment le... Écoute, moi, c'est ce qui me fait triper justement de ça, l'aspect découverte. Non, j'irai pas en ligne regarder c'est quoi toute la liste, parce que oui, la liste de cartes est sortie, toutes les factions, tous les types de cartes. Je pense que je veux même pas savoir ça. Les règles sont assez bien faites, puis il y a quelques mots-clés, bon, regarder avec une petite feuille d'aide de temps en temps. Mais sinon, de base, je veux découvrir le jeu tranquillement, pas vite. Je veux jouer un deck puis me dire, hey, j'ai déjà vu cette carte-là, ou hey, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui marche bien dans mon deck. Puis ça, c'est quelque chose pour moi que je veux garder, cette espèce de petit rituel-là, de dire, je vais avoir un nouveau deck de Keyforge, je le déballe, je le brasse, puis je commence à jouer pour essayer de voir c'est quoi.
Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est. Je pense qu'il y a des gens qui ont aussi peur un petit peu de la. Que des decks soient débalancés. Moi, pour vrai. Ça me dérange pas. Dans les événements que j'ai fait, y a une fois qu'on a pogné un deck qui était comme un petit peu moins... On avait l'impression qu'il était moins fort. Puis je me suis dit, il doit avoir une twist, il doit avoir une façon spéciale de jouer ce deck-là. Fait que, juste en regardant, après avoir joué deux parties, c'est comme, tu comprends les combos qu'il peut avoir dedans. Mm-hmm. Puis là, après ça, tu changes ta façon de jouer avec. Puis là, oh, ça, c'est bizarre, ça va mieux.
Alors moi, j'ai été vraiment séduit par ça. C'est vraiment, je pense que c'est, ça me donne mon feeling de Magic 2.0. C'est vraiment, vraiment le goût de découvrir ce jeu-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis beaucoup de faut que je fasse attention, là, j'ai tendance à tomber beaucoup. Mais je pense que vous allez en entendre parler pendant les prochains temps. Probablement à la chaîne, vous allez probablement voir des photos. On va probablement en jaser pendant des podcasts. J'ai vraiment l'intention d'y aller pas mal all-in avec Keyforge. C'est vraiment un concept que j'adore.
Ouais, je sais pas si je vais y aller all-in, mais je risque d'avoir une couple de decks.
Ouais, c'est certain qu'il faut toujours, écoute, j'ai moins le temps, j'aurais plus le temps de m'ordonner autant que j'ai pu jouer à différents jeux, mais Keyforge me donne un feeling de jeu de cartes. Puis en fait, en tant que tel, c'est comme un LCG, c'est comme un Living Card Game.
Ouais.
C'est un jeu évolutif comme ça, mais je pense que c'est le concept. Puis le gameplay aussi, il a enlevé la chose que Magic était vraiment déplorable pour ça, le mana. Donc le mana à Magic, c'est la chose la plus importante. Il y a des cartes qui servent de land qu'on va pouvoir utiliser comme pour des points de magie. Ici, en Keyforge, il n'y a pas de ça. Donc, on va nommer une maison, on va simplement jouer toutes les cartes qu'on veut, peu importe la sorte, on va pouvoir également attaquer avec les créatures, etc. On va pouvoir vraiment gérer. Puis c'est là le noyau du jeu, c'est le choix qu'on a à faire par rapport aux différentes factions qu'il va avoir. Puis ça, sérieusement, pour Keyforge, là, c'est vraiment génial.
Ouais, puis ça fait des situations super drôles aussi. Tu peux, tu pars de. T'as aucune créature, puis whoop, le tour d'après, t'as vidé ta main, puis là, t'as juste plein de créatures sur le plateau.
Mais ces créatures-là, par exemple, il va falloir que tu attendes un autre tour. Parce que si tu veux les jouer et qu'ils fassent de quoi, il va falloir que tu, le tour d'après, que tu rappelles la même maison. Donc, on a vraiment une gestion, un concept de gestion de main tellement bien appliqué, je trouve. Puis c'est vraiment ça qui fait briller le jeu pour moi. Parce que je le vois pas comme un clone de Magic ou quoi que ce soit. Je le vois comme, c'est vraiment un hand management. Il faut vraiment gérer. Puis c'est des combines, c'est des effets, c'est des choses comme ça. Moi, des réactions en chaîne que tu vas réussir à générer, ça, c'est vraiment dans mes cordes.
Ouais, c'est vraiment excellent. Surtout qu'en plus, tes créatures, t'es pas obligé de les utiliser pour attaquer. Tu peux juste faire l'action qui appelle Reap, qui va te donner une gemme que t'as besoin pour forger des clés. Ça aussi, ça donne des situations de fun, tu sais. Tu demandes, t'as une main pleine d'une certaine faction, mais t'as plein de créatures d'une autre faction sur le board. Est-ce que t'actives ces créatures-là pour gagner des gemmes, ou tu joues une autre faction dans ta main que ça va juste faire des trucs là.
C'est vraiment de trouver le moment optimal pour pouvoir jouer ces choses-là. Parce que moi aussi, il y a une partie que j'ai jouée, j'avais beaucoup de créatures de Mars sur la table. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai même pas de cartes que je vais pouvoir jouer, mais je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir reaper, pour aller chercher du Ember. Puis à un moment donné, à la fin, quand on commence à rouler, le petit moteur qu'on commence à fonctionner aussi, le petit côté engine building que j'aime bien gros, mais ça fait en sorte que là, à un moment donné, la partie va quand même se terminer rapidement. T'sais. Mais chaque deck va jouer différemment, puis c'est vraiment ce qui est fantastique.
Ouais. Puis ça, c'est... En plus, les decks sont pas chers. Fait que, ah, t'es tanné de jouer, hop, rachète un nouveau deck.
Et voilà. Et voilà, je pense que ça fait le tour. En tout cas, comme je dis, je pense qu'on va reparler de Keyforge. Il va falloir se donner le temps encore de jouer quelques parties.
Ouais, ouais, je pense aussi. Je sais pas si ça va toffer pendant plusieurs années, mais à date, j'aime bien ça.
Ça va rester à voir. Sinon, parlant de choses à voir, ben éventuellement, il y a d'autres projets qui s'en viennent, puis des choses comme ça. Bon, moi puis toi, on suit beaucoup l'actualité Kickstarter. On aime ça regarder les projets qui passent, voir qu'est-ce que les gens y back. Quel projet intéressant Kickstarter de ces temps-ci tu as dans ta mire?
Moi, j'ai Pipeline de Capstone Game. C'est eux autres qui ont publié Arkwright. Dans le fond, ils publient beaucoup de gros jeux, puis aussi des petits jeux complexes qu'ils appellent, là. Dans le fond, c'est eux autres qui ont sorti ça. Arkwright, ils ont fait Climbers dans leur petite section.
Dans la section Simply Complex, The Climbers est un de mes jeux favoris de ces temps-ci.
Pour vrai, c'est super
écœurant. Je tripe vraiment là sur ce jeu-là. Je pense que je vais faire bientôt une review à la chaîne, là, parce que The Climbers, sérieusement, le matériel tout, c'est vraiment absolument génial.
Oh, oui. Puis là, ils font Pipeline. Pipeline... c'est un jeu par Ryan Courtney. Je pense que c'est son premier, mais j'aurais dû regarder. Puis il est illustré par Yann O'Toole. Parfois, là, on a comme des dessinateurs là, qu'on aime vraiment beaucoup. Mm-hmm. Puis ça nous fait juste attirer l'œil sur un jeu. Puis on a juste envie d'en savoir plus. Là.
Ah non, Yann O'Toole, c'est...
Ça fait partie de moi aussi de mes dessinateurs. Que peu importe ce qu'il fait, va falloir que je check c'est quoi le projet pour voir si c'est intéressant. Ouais. Donc, Pipeline, c'est un gros jeu économique de 2 à 4 joueurs qui peut durer jusqu'à 2 heures. Pour vrai, ça a l'air comme excellent. Il y a du placement de tuiles avec des tuyaux. Tu vas essayer de faire les plus longs tuyaux possibles pour pouvoir les activer. Ça va te donner je pense que c'est du pétrole. Du pétrole de différentes qualités. Je pense qu'il y a 3 types de pétrole. Puis... ensuite, il y a la qualité de chacun. Tu vas essayer de les raffiner pour les revendre plus cher. Puis à la fin, c'est celui qui va avoir le plus d'argent. Donc, c'est une grosse machine économique. Tu vas essayer de remplir des contrats, acheter bas, revendre plus cher, acheter du moins bonne qualité, le raffiner, puis le revendre plus cher. Puis à chaque tu vas grossir ton plateau de tuyaux aussi avec tes tuiles. Fait que c'est un genre de petit puzzle, en plus d'avoir un affaire économique dessus.
Il y a plusieurs cordes à son arc.
Ouais, donc ça j'ai bien hâte de voir quand il va sortir.
Ah, je l'ai vu, ça a attiré mon attention, comme j'ai encore Yann O'Toole. Écoute, mon attention est piquée. J'ai regardé, j'ai fini par pas le backer, mais je vais quand même suivre le jeu, ça a l'air quand même intéressant. C'est un bon petit jeu que j'ai bien hâte de voir.
Puis en plus, le prix était quand même assez raisonnable. C'est 49 US plus shipping.
Ok.
Je pense que le retail est évalué à 70 US.
Bon.
En prévu pour juillet 2019.
Ah, juillet 2019.
C'est quand même loin, hein?
C'est quand même loin, hein? Mais parlant d'un projet qu'eux autres, ils ont décidé de ne pas y aller loin, je sais pas, mais en fait, tout le monde a suivi. Écoute, une campagne express pour Claustrophobia 1643.
Ouais. Moi aussi, je l'ai backé.
Donc,
je sais pas si tu l'as backé, mais moi je l'ai backé.
Claustrophobia 1643, ça se trouve être un reprint, donc une réimpression d'un jeu qui a déjà été fait, mais pas nécessairement une réimpression stricte, c'est une nouvelle édition, donc une édition 2.0 de Claustrophobia. Kevin, as-tu déjà joué à Claustrophobia?
Non, j'ai pas joué.
T'as pas joué à Claustrophobia? Ben moi, je possède ce jeu-là déjà avec une extension. Donc, le jeu de base Claustrophobia est sorti il y a plusieurs années. C'est un jeu asymétrique à deux joueurs avec des scénarios qui utilisent un concept de dungeon crawling. La plupart des gens vont le regarder, bon ok, jeu classique, on a des tuiles, on a des monstres, on a des héros, on a des dés, on brasse des dés, on bat des monstres. Ça, c'est le pitch de vente global. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux côtés se jouent de manière complètement différente. Donc, du côté des humains, il va falloir gérer justement différentes pistes où on va brasser des dés pour activer certains personnages. Je m'explique. En début de tour, on va brasser un nombre de dés égal au nombre de personnages. Et ensuite, on va devoir assigner ces dés-là. Chaque dé assigné à un personnage va lui donner une ligne de statistique. Donc, exemple, si jamais c'est un 1, ça se peut que le personnage soit plus mobile, mais soit plus frêle un peu. Ça se peut que si on lui donne un chiffre plus élevé, le personnage va avoir beaucoup de défense, beaucoup d'offense, mais pas beaucoup de déplacement. Donc, selon différents personnages, il y a des personnages plus agiles puis d'autres plus forts, on va devoir assigner des dés avec différentes habilités pour ce tour-là. Un personnage spécial va également avoir des pouvoirs magiques, donc des pouvoirs divins. Donc si jamais il y a un 2 exemple, il va pouvoir utiliser son aura qui va faire en sorte que tous ses amis à une tuile proche vont avoir plus de défense, plus d'attaque, des choses comme ça. Fait qu'à la base, du côté des humains, c'est ça. Mais ensuite, bon, ils vont devoir se déplacer et se battre. Donc, pour se battre, ça, c'est un bon vieux roulement de dés. On a un chiffre à viser. Donc, c'est certain qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de dés ici. Donc, les humains, c'est comme ça que ça se joue. Mais du côté des démons, eux autres, ils se jouent d'une autre façon. Eux, ils vont brasser un certain nombre de dés en début de tour et ils vont devoir les placer sur différentes activations. Il va y avoir différentes cases. Donc, une case, il faut que tu places des dés qui sont pairs, une autre qui sont impairs, une autre, il faut que la somme des dés soit de 7 et un paquet de petites choses comme ça. Donc, le côté du démon, au début du tour, il va brasser des dés, il va faire une allocation comme ça. Il va devoir amener des monstres pour pouvoir essayer justement de vaincre le joueur humain. Le jeu est drivé avec un concept de scénario, donc il y a beaucoup de scénarios disponibles dans le livre. Chaque scénario a des règles différentes, modifiées, trouver telle chose, ou trouver telle tuile, ou réussir à survivre un certain nombre de tours, et etc. Donc le jeu est basé autour de scénarios, mais c'est pas un jeu legacy où on va commencer, puis là il faut absolument continuer avec le même monde. C'est vraiment des scénarios, on peut les jouer de manière indépendante. J'ai joué le scénario d'introduction probablement une dizaine de fois, parce que chaque fois que je le présentais à des nouveaux joueurs, ben, je veux commencer avec le début de la base. Le jeu est pas trop compliqué, le jeu est intéressant, mais le jeu était également rendu rare. Donc, Claustrophobia est sorti avec deux extensions dans le temps, l'extension De Profundis et Furor Sanguinis. Moi j'ai Furor, mais j'ai pas la première. Mais ça m'amène à faire la grande boucle pour revenir à Claustrophobia, le projet Kickstarter. Lorsque vous allez entendre cet épisode-là, le projet va être terminé. Ça a été une campagne éclair, donc une campagne qui a été faite en 10 jours. Ça, c'est pas vraiment habituel. Je pense qu'il y avait... Tu as entendu parler d'une campagne aussi rapide que ça, toi?
Oui. En fait, Communer Net en a fait quelques-unes comme ça.
Arcadia Quest Riders, je crois, avait été dizaine de jours, une quinzaine de jours.
Ouais, exactement.
OK. Mais en tout cas, Claustrophobia ont décidé, écoute, on va faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu va être livré dans moins de 2 mois.
Ouais, effectivement, je pense que c'est janvier.
Et ça, par exemple, c'est vraiment incroyable parce que ça veut dire que présentement, au moment où on se parle, donc au moment où on se parle, nous autres, moi et Kevin, live, le jeu a présentement 7700 backers, même plus. Ils ont généré plus de 1 million de dollars canadiens. Leur but de pouvoir... Écoute, le jeu, il y avait pas de base. Le hic, c'est qu'ils ont produit une print run de 10 000 copies. Merci, bonsoir. Donc, ils en ont commandé 10 000, ils ont décidé d'y aller comme ça. Pas de fla-fla, le jeu est déjà en production. Donc, souvent, on a besoin d'attendre, bon, le projet va être terminé, on va envoyer les fichiers, on va faire ça comme ça. Et Claustrophobia, présentement, est déjà en train de se faire imprimer. Il est presque prêt, ils l'attendent, ils vont le prendre pour le livrer.
Ouais. Je pense que ce qui a aidé à faire ça, c'est que la compagnie derrière ça, c'est Monolith.
Mm-hmm.
Ils ont sorti Conan, ils ont fait... je pense que c'est eux autres qui s'occupent de Mythic Battle maintenant,
mm-hmm.
qui ont fait Batman.
Des gros jeux à gros déploiement, là.
Gros jeux à gros déploiement, plein de miniatures. Puis je pense qu'ils ont il y avait les reins assez solides pour pouvoir prendre le risque de printer 10 000 boîtes.
Mais le hic, c'est que le jeu sera pas vendu en distribution normale. Donc c'est vraiment, ils se sont dit Kickstarter, et éventuellement, qui sait, peut-être bien une extension qui va arriver, ils vont peut-être générer un autre projet Kickstarter. Mais à la base, le jeu n'a aucune distribution, c'est ça. Merci, bonsoir. Donc ils misent beaucoup sur l'effet de rareté en disant, vous allez avoir une édition de collection, puis et voilà.
Ouais, effectivement.
Moi, de mon côté, c'est assez difficile parce que oui, la campagne est intéressante, mais j'ai la première version du jeu. Et malgré le fait que le jeu vient avec une extension que j'ai même pas, ça reste que j'aurais comme l'impression de faire doublon un peu avec ça. J'aime beaucoup Claustrophobia, j'y joue pas assez souvent. Le jeu m'a titillé, j'ai mis mon petit dollar pour pouvoir suivre le projet. C'est pas facile, mais tu sais... N'importe qui a jamais joué à ce jeu-là, je leur suggère fortement. Puis écoute, le nouveau graphisme qui a été fait est vraiment magnifique. Les éléments de les feuilles de personnages, on va les placer. C'est tellement plus beau, c'est tellement mieux fait dans la nouvelle version. Mais au final, ça reste une version 2.0 de Claustrophobia.
Ouais, puis moi, je l'ai pas.
Et voilà. Puis,
en plus, un jeu que j'étais supposé backer, finalement, j'ai décidé de pas le backer. Fait que j'avais des fonds de disponibles pour
et voilà.
Les allouer à Claustrophobia.
Et voilà, mais sérieusement, Claustrophobia, moi je suis content. J'ai des amis à moi qui l'ont backé aussi. Des amis proches qui habitent proches. Je sais pas que... T'es mon ami aussi, Kevin. Mais c'est vraiment... J'ai hâte de voir. Ce qui est drôle, c'est que dans cette nouvelle version-là, par exemple, les miniatures ne viennent pas pre-paint. Dans la première version, les miniatures étaient peinturées. Bon, peinturées de manière... On s'entend que c'était pas une job de peintre hors pair, mais ça donnait beaucoup, beaucoup de look au jeu, pareil. D'avoir le petit démon et les troglodytes de peinturer, là, ça avait un beau look.
Ouais, puis à la qualité des miniatures, je me demande si je vais pas les faire peinturer ou je vais pas commencer à essayer de peinturer.
Ouais, moi. Mais ça donne le goût, parce que, sérieusement, comme je dis, donnez-vous l'eau à la bouche, même si le projet est terminé, quand vous allez écouter ces choses-là, mais allez voir c'était quoi le projet qui est passé, parce que non, il n'y a pas de Pledge Manager, il n'y a pas de Lead Pledge, il n'y a rien, c'est vraiment le jeu-là où, attendez qu'on en fasse un autre.
Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont réussir leur pari de livrer en janvier.
Effectivement, moi aussi, je suis vraiment curieux de ça, c'est audacieux pour le moins, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'était rafraîchissant, puis ça faisait une campagne différente de ce qu'on peut voir habituellement.
Ouais, puis, ah oui, il y a une autre des affaires cool dedans, c'est que la campagne, la boîte vient avec français et anglais.
Ah, c'est vrai, oui. Ils ont décidé de le rendre comme ça bilingue. C'est une très, très bonne idée.
Ah, une autre campagne.
Et voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui vont avoir joué à Welcome to à date. Puis ici, nous, on était chanceux. On a eu accès à avoir des copies. Je pense que ça venait d'Europe. Je pense qu'on a
Il venait d'Europe, de Blue Cocker Games. Qui ont distribué le jeu en Europe. Donc en France, Blue Cocker Games, c'était la compagnie qui s'en occupait.
Ouais, puis aux États-Unis, ils n'ont pas eu cette chance-là. Il n'y avait pas de. Je pense pas qu'il y ait eu de deal de distribution aux États-Unis. Donc les gens l'attendaient. Là, c'est. C'est-tu Emperor? Ah, c'est Deepwater Game. Deepwater Game a eu les droits pour pouvoir publier Welcome to aux États-Unis. Et ils en ont profité pour faire 4 petites extensions. Dans le fond, c'est juste la feuille de quartier est changée, puis il y a des nouvelles façons de faire des points. Donc, eux autres, ils vont faire ça pendant leur Kickstarter. Et, sincèrement, ils ont l'air super le fun. Je pense que n'importe qui est fan de Welcome To, avoir des feuilles différentes qui viennent changer un petit peu ta façon de faire, ça peut être super le fun pour la rejouabilité.
Wouhou, de la variété!
Ouais. Ouais, puis là, ils ont des feuilles thématiques. Il y en a un, c'est un quartier pendant l'Halloween. Donc, il y a une affaire de majorité pour les types de bonbons. Ils ont fait une version zombie où t'essaies de survivre et d'utiliser assez de balles pour tuer les zombies qui viennent détruire tes barricades ou essayer d'attaquer tes maisons. Puis, t'as aussi maintenant une version, je pense que c'est Noël. Puis, il y a aussi un autre qu'ils n'ont pas encore dévoilé. Celui de Noël, c'est que tu vas faire des points en faisant les lignes de chiffres qui suivent, comme des lumières de Noël. Mais ouais, cela il me tente. J'ai vraiment envie d'essayer les nouvelles feuilles.
Non, je veux que ça rajoute la vérité à un jeu qui est déjà populaire. Puis Welcome To, moi, comme je l'ai souvent dit, là, c'est un jeu qui est tellement passe-partout. Là. Je l'ai montré à tellement de gens différents, puis tout le monde l'a bien apprécié.
Ouais, pareil de mon côté. Mm. Parlant des Roll and Write, il y en a un autre aussi qu'on a eu l'occasion d'essayer.
Oui, qu'on a joué ensemble même avec la version imprimée.
Ouais. Dino World. En fait, je pense que c'est Welcome To Dino World. Donc, cela c'est faire un parc jurassique. Dans le fond, on va rouler des dés, on va faire des enclos à dinosaures, on va s'arranger pour que les dinosaures s'échappent pas. c'est parti. Dans le fond, ce jeu-là, la première version, a été fait pendant un Gen Cant. C'est une genre de convention, pas convention, pour ceux qui sont pas capables d'aller à Gen Con. Donc, eux autres, ils ont décidé de faire un genre de concours. Donc, ils proposent de faire des... À chaque année, ils ont des types de jeux différents dans le concours, ça va être le but de le faire. Et l'année que Dino World a gagné, c'était un Roll and Write. C'était ça qui était demandé. Puis c'est Dino World qui a gagné ce truc-là. Donc le gagnant pouvait avoir son jeu illustré par Brett Sobel. Et après ça, il était distribué gratuitement sur Internet. Il y a une compagnie qui l'a repris, Alley Cat Game. Dans le fond, ils ont juste contacté l'auteur. Puis ils ont repris ce jeu-là et l'ont un petit peu amélioré. Puis ils ont rajouté des petites affaires dedans qui donnent un peu plus de profondeur, plus de rejouabilité. Puis je pense qu'ils donnent un petit peu la viande qui manquait un petit peu au jeu pour qu'il soit vraiment super bon.
Un petit tune-up bien mérité. J'avais bien apprécié notre partie dans le world. C'est sympathique, on construit nos petits enclos à dinosaures, on essayait qu'il n'y ait pas d'outbreak puis que les dinosaures ils détruisent pas tout. Non, j'ai trouvé ça intéressant. La nouvelle version est encore là, les illustrations sont magnifiques. Ça fait du bien de voir un petit revampage de jeu là qui est intéressant mais pas trop attrayant. On s'entend, c'est un print and play là, qu'on a imprimé une petite phage là.
Ouais, puis ils ont rajouté des affaires qui ont l'air super intéressantes.
Ah, il va falloir voir. Là, comme je suis le projet avec beaucoup de curiosité.
Ouais. Ben moi, ça va sûrement être un achat en magasin.
Ouais, moi aussi, je vais probablement attendre un peu. Là. Il y a eu trop de bons projets. Là.
Ouais. Et le dernier que j'ai envie de parler, c'est Assassin's Creed. Parce que c'est un projet québécois.
Ça part d'ici.
C'est la compagnie Triton Noir qui le part. C'est eux qui ont fait V Commando. Et ils ont réussi à avoir la licence de Assassin's Creed pour faire un jeu de plateau.
C'est un bon coup. Encore là, faut pas que tu manques ta shot.
Ouais, exactement. Puis ça va venir avec une tonne de miniatures de l'univers de Assassin's Creed. Je me suis pas encore super beaucoup renseigné. Je sais juste que c'est un jeu full coopératif de 1 à 4 puis qui va jouer en plusieurs campagnes.
Non, c'est intéressant. C'est, comme je dis, la campagne vient de commencer là, au moment où qu'on enregistre ça. Là. Fait qu'on va probablement avoir plus de dénouement. Je l'ai vu arriver, je l'ai vu fois dans mon feed. J'ai comme, ouf, faut-tu vraiment que je regarde ça? Je vais attendre un peu. Là.
Ouais, je me suis pratiquement dit la même affaire.
C'est pas facile parce que, écoute, il y a plein de jeux comme ça qui arrivent sur Kickstarter. On essaie de les suivre, mais il faut aussi réussir à jouer à nos dernières acquisitions. Donc, les choses qu'on a acquis il y a pas trop longtemps, puis qu'on se dit, mais il faudrait qu'on les joue parce qu'on reçoit des Kickstarter comme ça. Ça arrive, mais là, à un moment donné, on a envie de les jouer, on a envie d'essayer de faire de quoi. Pour moi, mes dernières acquisitions que j'ai faites et que j'ai hâte de découvrir. Donc, on commence thématiquement avec Discover. On vous a parlé de Keyforge tantôt. Discover, ça se trouve à être un jeu encore de Fantasy Flight qui reprend le même concept de base. Donc, c'est un jeu, chaque jeu va être unique. Cette façon-là, bon, c'est un jeu un peu d'exploration, survie, comme ça. Mais on va avoir différents types de terrains, puis chaque boîte est différente. Donc, ma boîte va être totalement différente de la boîte à JP que lui aussi il s'est procuré. Ça se peut que j'aille la forêt tropicale, ça se peut que j'aille des plages, ça se peut que j'aille différents personnages, mais chaque jeu va être différent. Je me suis pas trop renseigné sur ce jeu-là, parce que comme on a peut-être pu le comprendre avec Keyforge, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'ouvrir la boîte, puis de pas savoir quoi m'en tenir. D'essayer de dire, écoute, on s'installe, j'ai pas lu les règles, on ouvre ça, je regarde qu'est-ce que j'ai, puis on se ramasse à essayer de justement de vivre ça. Le jeu s'appelle Discover, fait que pourquoi pas le découvrir. Toi, Kevin, tu connais-tu Discover? As-tu vu?
Je connais Discover, j'ai vu une partie jouer.
Okay.
J'ai pas encore joué.
Ah, j'ai même pas encore vu une partie jouer.
Alors, je vais sûrement essayer d'emprunter la copie de quelqu'un pour l'essayer.
Mais non, chose sûre, moi je pense que moi et JP, on s'est dit qu'on va se préparer un petit quelque chose, puis on s'est changé nos copies après qu'on avait fait les 5 scénarios. Sinon, un autre jeu que j'ai reçu il n'y a pas trop longtemps, directement de la compagnie Geek Attitude Games, un jeu que je ne connaissais pas du tout. J'ai reçu une copie de leur part. Je vais d'ailleurs vous la présenter éventuellement sur la chaîne, un déballage, puis aussi une vidéo règle. Le jeu d'Icium, ça se trouve à être 4 jeux différents. Jammé dans une boîte. Donc, il y a 4 façons différentes de jouer. Il y a un système de dés qui se trouve être justement connexe avec tous les autres. T'as un jeu de course, t'as un jeu coopératif de Dungeon Crawler, t'as un jeu qui se trouve être un jeu de civilisation, puis un autre jeu d'affrontement asymétrique. Le pitch de vente est assez tough parce que réussir à faire plusieurs jeux au sein d'une boîte, écoute, 504 l'a essayé de manière absolument gigantesque, un projet de 504 jeux, mais ça donnait 504 mauvais jeux ou presque.
Fait que ouais, avec Dicium, une coupe de correct.
Ouais, c'est ça. Dicium, il y a juste 4 jeux, il utilise un matériel qui est quand même assez similaire, puis le concept de base de brasser les dés, donc un peu à la Yadi, on va brasser les dés, on va pouvoir avoir un certain nombre de rôles, faire différentes actions avec ces dés-là. Chaque plateau de joueur va nous donner différentes actions qu'on va pouvoir faire. J'ai pas encore joué, j'ai lu les règlements, mais je veux vraiment y aller un à la fois. Donc le jeu de civilisation va être quand même assez intéressant. Dicium, j'ai bien hâte de vous présenter ça.
Écoute, quand moi tu m'en as parlé que t'avais reçu ça Je savais même pas c'était quoi.
Ben moi non plus, quand j'ai parlé avec Geek Attitude Games, ils m'ont parlé de leur projet. C'est un projet qu'on fait des années qu'on travaille dessus. Il nous tient à cœur. On va bientôt le sortir. Fait que bon, je suis intrigué, mais j'ai bien hâte de pouvoir vous le présenter. Sinon aussi les dernières acquisitions, là, écoute, j'essaie de penser des dernières choses. J'ai acquis récemment le jeu Fallout. Et je pense que celui-là, c'est vraiment plus une acquisition pas émotive, parce que le jeu a pas une super réputation comme étant un jeu absolument incroyable. Mais par exemple, ce que le jeu réussit à faire, c'est de mettre justement d'avoir un setting de Fallout, qui se trouve être une franchise de jeux de vidéo très populaire. Fallout, pour moi, j'adore ça. J'ai également une amie à moi qui tripe pas mal Fallout. Je me suis dit que ce serait le genre de bon jeu à pouvoir essayer. Fait que Fallout, j'ai pas encore joué. J'ai bien hâte de pouvoir le voir, parce que moi, sérieusement, le thème peut me faire oublier ben des affaires des fois. C'est vraiment, si c'est bien fait, moi, ça me met dans l'univers de Fallout, mais je trouve ça vraiment plutôt génial. T'allais-tu parler de Fallout?
Non, ben en fait, Fallout, il m'intrigue aussi. Sauf que les jeux de Fantasy Flight, il y a comme plein de pièces.
Ouais, c'est
plein
ça.
De texte. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de l'essayer. Je pense pas qu'il y ait personne dans mon coin, moi, qui l'ait acheté.
Ok, ouais. Je sais qu'il y a une version française aussi qui est sortie. Là. Il y a une extension qui va sortir aussi sous peu, mais je pense que je vais commencer avec essayer le jeu de base, là, au moins, là.
Je pense que c'est une bonne idée.
Ouais. Sinon, un autre petit jeu que ça faisait longtemps que je ziotais, qui était un projet qui était sur Kickstarter, je ne l'ai pas backé, c'est un projet qui s'appelle, un jeu qui s'appelle Subatomic. Subatomic, c'est un petit deck builder, mais fait par la compagnie Genius Games. Genius Games sont reconnus pour faire des jeux Real Games with Real Science, donc des vrais jeux avec de la vraie science. Donc, dans leur jeu, ils utilisent beaucoup de concepts scientifiques, mais appliqués de manière relativement juste. Donc là, on va jouer avec des protons, des atomes, des neutrons, des choses comme ça. Mais tout ce qu'ils t'expliquent dans le jeu, c'est qu'ils t'apprennent vraiment des choses. Ils ont fait un jeu aussi qui s'appelle Cytosis. Connais-tu Cytosis?
Oui, en fait, je sais c'est quoi. J'ai tellement passé proche de lâcher assez souvent.
Mais Cytosis, c'est la même chose. C'est un jeu avec différents concepts, mais ultimement, c'est de la vraie science qui te montre, puis... Je sais pas, c'est un petit côté, c'est un thème qui me plaît énormément. Puis Subatomic avait vraiment de l'air sympathique avec ses petits neutrons qui nous font des sourires. Sérieusement, là, j'ai vraiment hâte de l'essayer.
Ouais, ben, par exemple, même par exemple Cytosis, je pense qu'il pourrait même être utilisé pour apprendre le concept pour les cellules.
Oui, non, c'est ça que j'aime, c'est Genius Games, c'est vraiment leur but. Ils ont fait beaucoup de petits jeux de cartes. Bon, qui ont de l'air so-so, mais Cytosis, puis justement, maintenant, tout récemment, Subatomic, c'est vraiment un concept intéressant, là. Moi, c'est un thème que j'apprécie beaucoup. Fait que ça fait partie des dernières acquisitions que j'ai eues et que j'ai bien hâte d'essayer.
Moi, j'ai pas acheté vraiment beaucoup de jeux, dernièrement, sauf que j'en ai reçu beaucoup. Tu sais, des Kickstarter de comme l'année passée, puis étrangement, ce sont presque toutes arrivées dans le dernier mois.
Oui, ça arrive, ça arrive. Ta-da! Ta-da!
Dans les achats que j'ai fait, j'ai acheté Reef la semaine passée. Probablement que tout le monde va avoir entendu parler de Reef.
Mais oui, le prochain, la suite de Azul.
Ouais, je pense pas que c'est la suite
non,
de Azul.
Non, je sais. C'est le prochain jeu de la compagnie Plan B Games, Next Move Games.
Puis je pense pas qu'il y ait le même succès, mais moi je trouvais ça super le fun. Un jeu où. Encore là, c'est pratiquement du hand management. T'essayes de juste jouer tes cartes avec le bon timing pour faire le plus de points possible.
J'ai joué deux parties. Le matériel est magnifique, puis le jeu est très intéressant.
Ouais. Par plan
ça reste, B. Ça reste léger, mais non, c'est un jeu qu'on va peut-être pouvoir vous parler au courant des prochains épisodes. Je pense que c'est le genre de jeu qui est facile à sortir.
Ouais, une fois que je vais pouvoir avoir joué ma première partie.
Et voilà.
L'autre jeu que j'ai acheté, celui-là, c'est à cause de toi, c'est Railroad Rival.
Wouhou!
J'ai réussi à trouver une version de luxe avec des tuiles en bois. Je pouvais comme pas super.
Elles sont absolument magnifiques. Vous pouvez d'ailleurs voir ma vidéo de déballage sur la chaîne de l'école du jeu.
Ouais. Ça, c'est un jeu de train et d'action et de... C'est quoi le mot? C'est vraiment ça.
Oui, en fait, de stock, de gestion de d'action de compagnie, là, si on veut. Là.
Ouais. J'ai hâte de voir shares. Ça. Je pense qu'il joue quand même assez rapidement aussi. Hein?
Oui, c'est un jeu assez rapide. J'ai joué des parties à 4 joueurs. Se sont déroulées en prenant un petit peu plus que 45 minutes. Le jeu, par exemple, gagne beaucoup à être joué avec beaucoup de joueurs. À 2 joueurs, je dirais que c'est sa configuration la plus faible.
Ouais. Moi, je vais sûrement trouver plus de monde que 2. Autre chose que j'ai reçu Endeavor Age of Sail. Puis j'ai déjà joué une partie.
Un jeu absolument magnifique. Même la version, pas comme j'ai joué à la version Commodore. Je me suis procuré la version régulière. Un jeu qui est vraiment, vraiment fantastique.
Pour vrai, c'est excellent. Genre, quand tu commences à jouer, tu penserais pas. Là. Je sais pas, c'est peut-être le look ou...
Non, mes attentes étaient pas très hautes pour ce jeu-là, qui se trouve être une réédition d'un jeu qui existait déjà avant, il y a plusieurs années. Et c'est un jeu absolument incroyable.
Ah oui, c'est serré, t'as des choix déchirants aussi. Tu réussis près. Il y a bien des fois que tu réussis pas à faire tout ce que t'as besoin. C'est écœurant. J'ai vraiment aimé moi aussi ma partie. Ouais. Puis j'ai aussi reçu, dans le même principe, mais au lieu d'être des voyages sur l'eau, des voyages sur la terre, j'ai reçu Australia. Donc c'est un jeu de train. Puis la twist, c'est que il y a Cthulhu dedans. Donc on va essayer de faire un chemin de fer de train pour pouvoir transporter ses troupes d'armée pour pouvoir aller attaquer les monstres de Cthulhu qui viennent attaquer les fermes. Faut essayer de faire des ressources. Il y a plein de choses à faire dedans. Et c'est un autre jeu de Martin Wallace.
Justement, qu'on a discuté tantôt avec Wildlands. Donc, Martin Wallace est parti sur une dérape de jeu spécial.
Ouais. Celui-là, il y a une mécanique intéressante pour les combats. C'est un deck de cartes que tu vas flipper. Puis c'est un peu du push your luck. Dans le fond, chaque carte a tous les monstres. Puis il va avoir différentes statistiques si tu réussis ton attaque ou pas, si tu fais des dégâts, si tu reçois des dégâts. Dépendamment des unités contre lesquelles t'es, puis les unités avec lesquelles t'attaques. Donc tu vas flipper une carte, tu vas regarder qu'est-ce que ça fait. Des fois ça peut rendre tes unités folles, dans le fond avec tu perds de la sanité là.
Parce que ça c'est un concept de base de Cthulhu, la santé ouais. mentale qui finit toujours par descendre puis on vire fou là.
Ouais, donc avec ça, fait que tu flippes une carte, Ah, t'es correct. Ah, tu flippes une autre carte. Ah, j'ai réussi à faire un dégât. Ah, tu flippes une autre carte. Ah non, je perds une unité. Tu flippes une autre carte jusqu'à temps que soit t'aies plus d'unité, soit t'as juste décidé d'arrêter parce que il était temps. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai entendu plusieurs commentaires comme quoi c'était bon. J'ai vraiment hâte de vérifier par moi-même.
Non, j'ai écouté une entrevue récemment avec Martin Wallace, puis justement, ce designer-là habite justement en Australie. C'est ce qui est drôle, c'est qu'il a déménagé là-bas. Ouais, ouais. C'est une des rares personnes, un des rares designers qui a eu un visa de travail pour être outstanding dans son champ d'expertise en tant que tel. Fait que c'est assez spécial pour un board game designer d'avoir cette renommée-là. Martin Wallace, c'est vraiment, vraiment une pointure là, en tant que tel.
Wow.
Oh oui, il vient du UK, du United Kingdom, c'est un Anglais. Justement, il a pu voyager, puis là, il a terminé. Présentement, il habite là avec sa petite famille. Puis c'est vraiment un gars très, très réputé là, dans le domaine.
Ben, c'est sûr qu'après avoir sorti Brass et Age of Steam, ça te donne quand même un bon pedigree. Là. Autre chose que j'ai reçu, puis que j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer, j'ai reçu The Estate, un petit jeu d'enchères et d'enfoirés. Dans le fond, grosso modo, le concept là, c'est qu'on va aller en enchère. Il y a une grille de 3 cubes de hauteur par je sais pas combien de cubes de large. À chaque tour, à chaque fois que c'est ton tour, tu vas choisir de mettre en enchère une pièce. Tu as soit un toit, soit un bloc, soit des blocs spéciaux qui vont faire qui vont venir changer le décor. Ton but, c'est de faire des points. Tu vas faire des points à la fin de la game seulement sur 2 rues. Dans le fond, il y a 3. C'est séparé en 3 rues de 4 espaces. Et tu vas scorer des points seulement sur 2 rues. La rue qui ne score pas, elle score, mais en négatif. Donc, quand tu places tes cubes, c'est la personne qui va faire des points, c'est celui-là qui a son bloc le plus haut sur la structure. Dans le fond, on essaie de faire des genres de buildings en hauteur, des gratte-ciel. Puis tu vas avoir celui qui a son cube qui contrôle le haut du gratte-ciel. C'est celui-là qui va faire des points, puis il va faire des points additionnés à tous les cubes qui sont en dessous. La petite twist, c'est que tu peux placer un cube avec un chiffre plus bas par-dessus un autre. Et les toits vont aussi donner des points. Donc, comment on décide quelle rue va scorer des points? C'est les deux rues qui vont être complétées. Donc, de base, ce serait les deux premières rues qui vont avoir 4 buildings avec des toits. Donc, il faut que la rue soit complète et que toutes les bas. Pour que la rue soit complète, elle doit avoir des toits partout dessus. Okay. Cette affaire-là, ce qui est drôle, c'est que tu peux mettre aux enchères un bloc qu'une autre personne va dépenser vraiment beaucoup d'argent parce qu'elle veut pas perdre beaucoup de points. Puis elle sait que si quelqu'un d'autre le prend, va le mettre sur la rue qui fera pas de points et qui va faire des points négatifs. Et le petit côté enfoiré, c'est que tu peux aussi reprendre encore un cube de cette personne-là s'il est disponible, même quand elle a plus d'argent, et le remettre aux enchères encore.
Ça, c'est méchant, ça.
C'est très méchant. Donc, ça donne des petites situations comme ça. Et j'ai vraiment hâte d'essayer ça.
C'est ce qu'on appelle un jeu d'enfoiré.
Exactement. Puis, dans les autres trucs, je me suis acheté une copie de Warhammer Underworld, Night Vault.
Qui se trouve être la suite de Shadespire.
Exactement. Ça, j'ai hâte de l'essayer. La seule affaire, c'est que je dois monter les miniatures. Là. Faudrait que je me prenne du temps pour ça.
Ouais, mais monter, je pense que c'est assez simple comme ça n'a rien à voir avec Kingdom Death Monster. Là.
Non. Non, c'est je pense que c'est du genre du push-fit. T'as même pas besoin de colle dedans. Mais
non, j'ai hâte de voir. Moi, il faut que je fasse attention. Shadespire m'intéresse beaucoup. C'est le genre de jeu que j'ai vraiment, mais c'est le genre d'affaire que quand tu commences à jouer, tu tombes là-dedans. Déjà là, que Keyforge, qui a eu beaucoup de notre attention dernièrement, là. Il faut pas que je tombe dans ces affaires-là. Genre de miniature skirmish. J'ai même pas de jeu de ce style-là, mais.
Avec du deck building.
Eh oui.
Oh non.
Et voilà. Non, la recette est bonne. Le concept est bon. C'est certain qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On peut pas tout jouer. On a beau essayer de vouloir, mais c'est impossible de tout jouer.
Non, effectivement. Ce qui m'amène à mon dernier jeu avec un titre qui fit super bien. Hein? Obsession. C'était un Kickstarter qu'il y avait eu l'année passée.
OK.
Ce qu'on pouvait lire, c'est que des gens l'ont décrit comme étant un genre de Downton Abbey. Dans le fond, c'est la thématique un peu victorienne.
Okay.
Tu représentes une famille bourgeoise, puis tu essaies de gagner de l'influence auprès de la royauté. Comment tu vas faire ça? Tu vas agrandir ton territoire, ton manoir, avec des trucs. Tu vas inviter des gens de la bourgeoisie, tu vas leur faire faire des activités, puis tu vas continuer d'essayer d'augmenter ta réputation puis d'élargir ton cercle de personnes. Fait que c'est un petit peu de deck building dans ce format-là. Puis c'est du worker placement. Tu essaies d'avoir beaucoup de servants pour pouvoir faire certaines activités qui vont donner plus de points, puis plus d'argent, puis plus de relations, puis plus d'invités pour une belle roue qui tourne.
C'est un projet que je connaissais pas beaucoup, puis là, je regarde un peu là, pendant que t'en parles. Là.
Pour le artwork est un peu étrange. Il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations pendant le Kickstarter. Là, ça semblait super amateur. En fait, je pense que ça l'était. Puis le créateur a écouté ses backers. Là.
C'est bien ça.
Écoute, ils ont changé presque tout. Puis maintenant, c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus lisible. Puis c'est très très correct. Là. Puis il paraît que le gameplay est super le fun.
Ok.
Fait que j'ai hâte de voir ça.
Bon, c'était pour Obsession, un jeu que moi je connaissais même pas. Bon, ça y est, j'ai un autre de plus sur le radar. C'est pas facile, hein, parce que finalement, on finit toujours par avoir un paquet de jeux comme ça. Je sais pas pour toi, mais moi, ma wishlist là, est grosse. Chaque fois que j'entends parler, j'écoute, je consomme beaucoup de médias ludiques aussi, des podcasts, j'écoute des vidéos. Il me semble qu'on a toujours des choses qui se rajoutent, des choses d'intérêt à venir. Puis je pense qu'on pourrait vous en parler pendant assez longtemps là-dessus.
Ah, écoute, il y a genre, il y a quoi, 2000, 3000 jeux ou 4000, 5000, je sais pas comment ils sont rendus à chaque année, mais on est rendu à vraiment beaucoup.
C'est ça le problème un peu, parce que on s'intéresse beaucoup à ça, puis écoute, on est dans le milieu, on tripe pas mal, c'est une passion, notre hobby, on le vit à fond la caisse, il y a plein de jeux qui sortent, puis il y a plein de jeux aussi intéressants, mais on n'a pas l'occasion de tous les essayer. Puis on voudrait avoir, puis même avec toute la meilleure motivation du monde, même les grands bonzes de ce monde dans là-dedans qui font ça à temps plein, ont pas le temps de jouer à tous les jeux. Fait que c'est de trouver des choix, faire nos choix sur les jeux qui nous intéressent, les mécanismes qui nous intéressent beaucoup aussi pour pouvoir les présenter. Parce que ça arrive souvent, on essaie de partager ça un peu, de voir un peu tous les jeux qui nous font plaisir, puis vous voulez partager un peu parce que il faut bien que quelqu'un les essaye.
Ben oui. Ouais.
Bon, fait que, ben, je pense que ça fait le tour un peu de l'épisode aujourd'hui. Là, écoute, on s'était visé un 60 minutes, on est rendu à 75. Je pense qu'on avait viré à peu près d'un même temps. Je pense que ça fait le tour un peu de notre épisode. Donc, l'épisode numéro 1 de l'école du jeu. Vous pouvez suivre le podcast. On va essayer de sortir... Bon, ok, c'est pas encore coulé dans le béton, mais on va essayer que... À chaque mois, on vous sort un épisode complet, donc un épisode où on va justement prendre le temps, discuter différentes choses comme ça, parsemé dans le mois, ça se peut que de temps en temps, il y ait des petits blabla qui ludiques qui arrivent, donc si j'ai l'occasion d'une entrevue, une jasette, un sujet, un jeu, ça se peut qu'il y ait des épisodes audio comme ça qui vont sortir. Les épisodes, on les met toujours aussi sur YouTube, donc vous allez voir les épisodes audio sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre à la chaîne, donc l'école du jeu, on essaie d'être partout, on a un podcast, on a une chaîne, on essaie d'être sur Instagram, on est sur Facebook, on est un peu partout. Alors, on est un peu partout.
Ben oui.
Fait que ça fait le tour donc de l'épisode. Donc c'était Kevin et Sylvain pour l'école du jeu et on se dit
à la prochaine.
À la prochaine.